Chapitre 7 Kashum 1 Une sensation d'étrangeté et de tristesse mêlée gagna insidieusement les pistoleros après le départ de Brötigan et de ses amis. Mais tout d'abord, personne ne la mentionna. Chacun d'eux pensait être le seul à ressentir cette mélancolie. Roland, dont on aurait pu s'attendre à ce qu'il reconnaisse ce sentiment, le Kashum l'aurait appelé Kort, l'attribua plutôt aux inquiétudes liées au lendemain et surtout à l'atmosphère débilitante de Tonnefoudre, où le jour était faible et la nuit profonde et aveugle. Il y avait certes de quoi les occuper après le départ de Brötigan, Earnshaw et Chimiruiz, l'ami d'enfance de Roland. Eddie et Susanna avaient chacun essayé de parler de chimie au pistolero, mais Roland s'était débarrassé d'eux. Jake, si fort qu'il fût avec le Shining, n'avait même pas tenté le coup. Roland n'était pas prêt à reparler de ses jours anciens. Du moins, pas encore. Un sentier descendait le Stecktête en le contournant. Et ils trouvèrent la grotte dont leur avait parlé le vieil homme derrière un camouflage habile de rochers et de buissons poussiéreux. Cette grotte-ci était beaucoup plus vaste que celle située plus haut, avec des lanternes à gaz suspendues à des pitons plantés dans la paroi rocheuse. Jake et Eddie en allumèrent deux de chaque côté, et ils se mirent tous quatre à examiner en silence le contenu de la grotte. La première chose que remarqua Roland, ce furent les sacs de couchage, un quatuor de duvet aligné le long du mur de gauche et qu'on avait posé avec sollicitude sur des matelas pneumatiques. Les sacs portaient une étiquette « propriété de l'armée américaine ». À côté des quatre sacs, un cinquième matelas pneumatique était recouvert de serviettes de toilette. Ils attendaient quatre personnes et un animal, constata le pistolero. De la précognition... Ou bien nous épiait-il? Et quelle importance? Un objet emmailloté dans du plastique était posé sur un baril portant l'inscription « Danger munitions ». Eddie retira le plastique protecteur, révélant une machine à bobine. L'une des bandes était chargée. Roland ne parvenait pas à déchiffrer le mot unique sur le devant de la machine parlante et demanda à Susanna de le lui dire.
« Volensack. » fit-il. C'est une firme allemande. Dans ce domaine-là, c'est eux les meilleurs.
Non, plus maintenant, ma choute, fit Eddie. Dans mon camp, on aimait répéter « T'en as rêvé ? Sony l'a fait. Eux, ils font un lecteur que tu peux t'accrocher à la ceinture. Ils appellent ça un baladeur. Je te parie que ce dinosaure-là pèse au moins 10 kilos, plus avec les piles. »
Susanna examinait les boîtes des trois cassettes empilées à côté du Volensack à la recherche d'inscriptions.
« J'ai hâte d'entendre ce qu'il y a là-dessus, » dit-elle.
« Quand le jour sera tombé, peut-être, » tempéra Roland. « Pour l'instant, voyons ce que nous avons d'autre. »
« Roland ?» Le pistolero se tourna vers Jake.
Il y avait dans le visage du jeune garçon quelque chose qui adoucissait presque toujours l'expression de Roland quand il le regardait. Ce qui ne rendait pas à proprement parler le pistolero beau, mais qui donnait à ses traits une qualité qu'il n'avait pas d'ordinaire. Susanna pensait que c'était le regard de l'amour, et peut-être aussi une pointe d'espoir pour l'avenir.
« Qu'est-ce qu'il y a, Jake ?»«
Je sais qu'on va devoir se battre. » Rejoignez-nous la semaine prochaine pour Retour à Hockey Choral avec Van et Flynn et Lee Van Cleef,
murmura Eddie en se dirigeant vers le fond de la grotte. Il y trouva un engin beaucoup plus volumineux, recouvert de ce qui ressemblait à un plaid écossais de déménageur.
Mais quand ?
Poursuivit le garçon.
Demain ?
Peut-être. Je pense que ce sera plutôt après-demain.
« J'ai un terrible pressentiment, » fit Jake. « Pas vraiment de la peur. »«
Tu crois qu'ils vont nous battre, trésor ?»
demanda Susanna. Elle posa la main sur la nuque de Jake et le regarda attentivement. Elle avait appris à respecter ses sentiments. Elle se demandait parfois dans quelle mesure il devait ce qu'il était aujourd'hui à l'affrontement avec cette créature, la chose dans le manoir de Dutch Hill. Pas de robot alors, pas de vieux jouet au mécanisme rouillé. Le gardien de la porte était un véritable survivant du prime.
« Tu sens une raclée dans l'air, c'est ça ? Je ne crois pas, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai ressenti ce genre de choses qu'une seule fois auparavant, et c'était juste avant... »« Juste avant quoi ?»
demanda Susanna, mais avant que Jake ait pu répondre, Eddie les interrompit. Roland en fut heureux. « Juste avant de tomber. » C'était ce que Jake allait dire. « Juste avant que Roland me laisse tomber. »
« Nom de Dieu, venez voir un peu, les gars, il faut que vous voyez ça !»
Eddie avait retiré le plaid, découvrant un véhicule à moteur qui ressemblait à un croisement entre un quad et un tricycle géant. Il était doté de pneus ballons striés en zigzag. Toutes les commandes se trouvaient sur le guidon. Une carte à jouer avait été glissée sur le tableau de bord rudimentaire. Roland sut ce qu'elle représentait avant même qu'Eddie la tire et la retourne. On y voyait une femme avec un châle sur la tête et un rouet. C'était la Dame d'Ombre.
« On dirait que notre ami Ted t'a laissé une monture, choupette !» fit Eddie.
Susanna s'était précipitée en rampant. Elle leva les bras.
« Fais-moi monter. Mets-moi dessus, Eddie. »
Il s'exécuta. Et lorsqu'elle se trouva en selle, à tenir un guidon au lieu de rênes, le véhicule avait l'air fait pour elle. Susanna appuya sur un bouton rouge et le moteur ronronna si bas qu'on l'entendait à peine. Il marchait à l'électrique, pas à l'essence. Eddie en était presque certain. Comme une voiturette de golf, mais sans doute en beaucoup plus rapide. Susanna se tourna vers eux, un sourire radieux illuminant son visage. Elle donna une petite tape à la nacelle marron foncé du trois-roues.
« Appelez-moi Miss Centaure. J'ai cherché cet engin toute ma vie, sans même savoir qu'il existait. »
Aucun d'eux ne remarqua l'expression affligée qui s'était subitement peinte sur le visage du pistolero. Il se pencha pour ramasser la carte qu'Eddie avait laissée tomber par terre, afin que personne d'autre ne le fasse. Oui, c'était bien elle, pas de doute. La Dame d'Ombre. Sous son châle, elle avait l'air de sourire avec ruse et de sangloter en même temps. La dernière fois qu'il avait vu cette carte, elle était dans la main d'un homme qui se faisait parfois appeler Walter. Parfois, Flag.
« Tu ne mesures pas à quel point tu es proche de la tour maintenant, » avait-il dit. « Des mondes tournent autour de ta tête. » Et voilà qu'il reconnaissait ce sentiment qui s'était insinué en eux. Ni tracas, ni lassitude, mais le cachum. Il n'y avait pas vraiment de traduction pour ce terme plombé de malédiction, mais il signifiait qu'on pressentait une rupture dans un cas-tête. Walter Odim, son ennemi de toujours, était mort. Roland l'avait su dès la seconde où il avait aperçu le visage de la Dame d'Ombre. Bientôt l'un des siens mourrait aussi, sans doute au cours de la bataille à venir, pour mettre fin à l'œuvre macabre du Devartois. Et une fois encore, la balance qui avait momentanément penché en leur faveur reprendrait sa position initiale. Il ne traversa jamais l'esprit de Roland que celui qui mourrait. Ce serait peut-être lui. 2. Il y avait trois noms de firme. Sur le véhicule, qu'Eddie baptisa immédiatement le tricycle de croisière de Suze. Le premier était Honda. Le deuxième, Takuro. Comme dans cette importation extrêmement populaire avant la supergrippe, le Takuro Spirit. Le troisième était North Central Positronics. Ah, et un quatrième, Armée américaine, comme dans Propriété 2. Susanna se montra réticente à descendre, mais finit par se soumettre. Dieu savait qu'ils avaient encore beaucoup à voir. Cette grotte était une véritable caverne au trésor.
Le goulet plus étroit regorgeait de vivres, pour la plupart des surgelés sous vide qui n'attendraient pas les sommets gastronomiques de la Boostified Nigel, mais qui au moins les nourriraient. De l'eau en bouteille, des boissons en boîte, plein de coca et de nozala, mais rien d'alcoolisé. Et le fameux réchaud au propane. Ainsi que des caisses débordant d'armement. Certaines portaient la mention « armée américaine », mais pas toutes. Alors leurs aptitudes élémentaires se révélèrent. « La loi véritable », aurait dit Cort. Ses talents et ses intuitions qui auraient pu rester en veille pendant la majorité de leur vie ne se réveillant que de temps à autre, assez longtemps pour leur causer des problèmes, si Roland ne les avait pas volontairement exaltés, dorlotés, ni aiguiser leurs dents pour en faire des armes mortelles. Ils n'échangèrent pas un mot lorsque Roland sortit de son sac un large instrument pour faire levier et déloger le couvercle des caisses. Susanna oublia le tricycle de croisière qu'elle avait attendu toute sa vie. Eddie oublia de faire des blagues. Roland oublia son mauvais pressentiment. Ils s'absorbèrent tous dans l'arsenal qu'on leur avait laissé et dont pas un élément ne leur demeura très longtemps mystérieux. Il y avait une caisse de fusils AR-15 dont les canons étaient emballés dans la graisse, les mécanismes embaumant l'huile de banane. Eddie remarqua les sélecteurs supplémentaires et jeta un œil à la caisse posée à côté. À l'intérieur, recouvert de plastique et également emballé dans la graisse, se trouvaient des tambours métalliques. Ils rappelaient les mitraillettes qu'on voyait dans les épopées de gangsters à la Bonnie and Clyde, mais en plus gros. Eddie sortit l'un des AR-15, le tourna entre ses mains et trouva exactement ce qu'il cherchait. Un clip qui permettait d'accrocher ses tambours au fusil, les transformant en coupe-choux ultra rapides. Combien de tirs par tambour? 100? 125? Assez pour balayer une compagnie entière, voilà qui était certain. Il vit également une boîte de ce qui ressemblait à des roquettes, avec les lettres STS peintes sur le côté. Dans un casier derrière, appuyé contre le mur de la grotte, se trouvait une demi-douzaine de lance-roquettes manuelles. Roland lui montra du doigt le symbole atomique peint sur chacun d'eux et secoua la tête. Il ne voulait pas se servir d'armes susceptibles de lâcher des radiations fatales, quelle que fût la puissance de ces armes. Il était disposé à tuer les briseurs, s'il fallait en arriver là pour les empêcher de détruire le rayon, mais seulement en dernier recours. À côté d'un casier métallique rempli de masques à gaz, Jack leur trouva un air épouvantable, comme si on avait coupé la tête à des insectes bizarres. Reposaient deux caisses d'armes de poing. Pistolets à canon courbe, avec la marque Coyote frappée en relief sur la crosse, automatique Cobra Star Massif. Jack se sentait attiré par ces deux types d'armes. En réalité, son cœur était attiré par toutes les armes. Puis il prit l'un des stars, parce qu'il lui rappelait un peu le pistolet qu'il avait perdu. Le chargeur se trouvait dans la crosse et contenait 15 ou 16 balles. Pas besoin de compter, à l'œil il savait. « Hé !» fit Susanna, qui était retournée près de l'entrée de la grotte.
« Venez voir un peu, des vifs d'argent. »«
Vérifie sur le couvercle de la caisse, » recommanda Jake tandis qu'il la rejoignait.
Susanna l'avait posée à côté. Jake s'en saisit et l'étudia avec admiration. On y voyait le visage souriant d'un garçon affublé d'une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Il portait des lunettes rondes et pointait ce qui ressemblait à une baguette magique en direction d'un vif d'argent flottant dans l'air. Dessous apparaissait la légende suivante. « Propriété du 449e escadron, 24 vifs d'argent. Modèle Harry Potter. De série 465-17-CC-NDJKR. Le 449, faut pas le chercher. On va botter le cul au serpentard qui est en vous. » Ils dénombrèrent 2 douzaines de vives d'argent dans la caisse, emballées comme des œufs dans leurs petites coques et leurs copeaux de plastique. Aucun des membres de la bande de Roland n'avait eu l'occasion d'en voir de vivants d'aussi près durant la bataille avec les loups, mais ils disposaient d'un certain laps de temps pour satisfaire leur curiosité la plus naturelle. Ils prirent chacun un vif d'argent dans la main. Ils avaient la taille d'une balle de tennis, en nettement plus lourd. La surface en était quadrillée, leur donnant l'apparence de globes marqués des lignes de latitude et de longitude. Ils avaient l'air en acier, tout en étant légèrement malléables au toucher, comme du caoutchouc très rigide. Une plaque d'identité apparaissait sur chaque vif d'argent, ainsi qu'un bouton à côté.
« C'est ça qui les réveille !»
murmura Eddie, et Jack hocha la tête. Ils notèrent également un petit creux dans la surface courbe, permettant juste d'y glisser le bout du doigt. Jack appuya dessus sans la moindre crainte que la chose explose, ou qu'il en jaillisse une mini-scie rotative qui lui tranche les doigts. On utilisait ce petit creux pour accéder à la programmation. Il ne savait pas où il était allé chercher ça, mais le fait est qu'il le savait. À la surface du vif d'argent, un segment incurvé glissa avec un « haoum » affaibli. Apparurent alors 4 diodes minuscules, dont 3 éteintes et la dernière émettant un lent clignotement orange foncé. 7 petites fenêtres affichaient 0, 00, 00, 00. Sous chacune d'elles se trouvait un bouton tellement minuscule qu'il aurait fallu la pointe d'un trombone pour appuyer dessus. De la taille d'un trou du cul d'insecte, grommellerait Eddie un peu plus tard en s'escrimant à en programmer un. À droite de ces fenêtres, 2 autres boutons portaient respectivement les mentions R et A. Jack le montra à Roland.
« Le premier, c'est pour régler, et le deuxième pour attendre. Tu ne penses pas ? Moi, c'est ce que je pense. »
Roland acquiesça d'un hochement de tête. Jamais auparavant, il n'avait vu une arme de ce genre. En tout cas, pas en gros plan. Mais la présence des petites fenêtres rendait en effet évident le rôle des boutons. Et il imaginait que les vifs d'argent pourraient leur être utiles, plus utiles peut-être que les longs tireurs avec leurs obus atomiques. Régler et attendre. Régler et attendre.
Est-ce que Ted et ses potes ont laissé tout ça ici pour nous ?
Demanda Susanna. Roland se dit que peu importait qui avait entreposé tout ça, c'était là et ça lui suffisait. Mais il opina de la tête.
Comment ? Et où est-ce qu'ils ont déniché tout ça ?
Roland n'en savait rien. Ce qu'il savait, c'est que cette grotte était un mazun, un trésor de guerre. Au-dessous d'eux, des hommes faisaient la guerre à la tour que la lignée de l'aîné avait fait le serment de protéger. Son tête et lui allaient leur tomber dessus par surprise, et avec des instruments comme cela, ils frapperaient et frapperaient encore, jusqu'à ce que leurs ennemis se retrouvent allongés par terre, les bottes pointant vers le ciel. Ou bien que leurs bottes à eux pointent vers le ciel.
Peut-être qu'il l'explique sur une des cassettes qu'il nous a laissées,
suggéra Jake. Il avait enclenché la sécurité de son cobra automatique et il le glissa dans le sac avec ce qui restait d'Oriza. Susanna s'était elle aussi munie d'un cobra, après l'avoir fait tourner sur son doigt 1 fois ou 2 à la Annie Oakley.
Peut-être bien,
dit-elle en adressant un sourire au garçon. Cela faisait longtemps que Susanna ne s'était pas sentie aussi bien physiquement. Tellement non-enceinte. Pourtant, elle avait l'esprit troublé. Ou peut-être était-ce son moral. Eddie brandit un morceau de tissu roulé comme un parchemin et retenu par 3 brins de ficelle.
Ce type, Ted, il a dit qu'on trouverait une carte du camp prison. Je parie que c'est ça. Quelqu'un d'autre à part moi voudrait y jeter un œil ?
Ils se rapprochèrent tous. Jake aida Eddie à dérouler le tissu. Brottigan les avait prévenus qu'il s'agissait d'une carte grossière, et c'était bien le cas. Rien de plus qu'une série de ronds et de carrés. Susanna vit le nom de la petite ville, Pleasantville, et repensa à Ray Bradbury. Jake était quant à lui titillé par la rose des vents rudimentaires, car le dessinateur avait ajouté un point d'interrogation à côté du N de Nord. Tandis qu'ils étudiaient ce piètre exercice en cartographie, un long cri chevrotant s'éleva de l'obscurité dehors. Eddie, Susanna et Jake balayèrent les alentours d'un regard anxieux. Otté leva le nez et mit un bref grondement de gorge, puis reposa la tête sur ses pattes avant et eut l'air de se rendormir.
« Va au diable, vilain, je suis avec mes potes et j'ai même pas peur. »«
Qu'est-ce que c'était ?» demanda Eddie. « Un coyote ? Un chacal ?»«
Un chien du désert, » acquiesça distraitement Roland.
Il s'était accroupi sur les talons, ce qui donnait à penser que sa hanche allait mieux, du moins temporairement, les bras encerclant ses tibias. Il ne quittait pas des yeux les ronds et les carrés grossiers sur le tissu.
« Quand toi, tête ?»«
Comme dans tête ?» demanda Jake.
Roland ignora la question. Il ramassa la carte et sortit de la grotte avec, sans se retourner. Les autres échangèrent un regard avant de le suivre, en s'enveloppant de leur couverture comme d'un châle. 3. Roland retourna là où Chimmy, avec l'aide de ses amis, les avait fait passer. Cette fois, le pistolero utilisa les jumelles pour observer le paradis bleu à loisir. Quelque part derrière eux, le chien du désert hurla de nouveau sa plainte solitaire dans les ténèbres. Et Jake se dit que les ténèbres étaient devenues plus ténébreuses encore. Lorsque le jour déclinait, les yeux s'adaptaient à la lumière changeante, mais par contraste, ce grand soleil projecteur paraissait encore plus éclatant. Il était presque certain que le principe avec ce soleil-là, c'était le tout ou rien. On l'allume, on l'éteint, rien entre les deux. Peut-être même qu'il le laissait briller toute la nuit, mais Jake en doutait. Le système nerveux était programmé pour le déclin progressif de la lumière jusqu'à la nuit. Il avait appris ça en cours de biologie. On pouvait s'accommoder de longues périodes de lumière. Les gens le faisaient tous les ans dans les régions de l'Arctique. Mais ça pouvait vraiment vous embrouiller la tête. Jake se dit que les types aux commandes, là-bas, ne voudraient pas abîmer leur briseur s'ils pouvaient l'éviter. Et ils voudraient aussi préserver leur soleil aussi longtemps que possible. Tout ici était vieux et sujet aux pannes. Roland finit par faire passer les jumelles à Susanna.
Regarde particulièrement les bâtiments à chaque extrémité du rectangle de pelouse, je te prie.
Il déroula la carte comme un personnage sur le point de déclamer son annonce dans une pièce de théâtre. Il jeta un coup d'œil furtif, puis déclara
« Il porte les numéros 2 et 3 sur la carte. »
Susanna les étudia avec attention. Celui marqué 2, la maison du gardien, était un petit bungalow peint en bleu électrique avec l'avant-toit blanc. Sa mère aurait sans doute appelé cette bâtisse une maison de conte de fées, du fait des couleurs vives et des fioritures tarabiscotées au bord du toit. La maison d'Amélie était beaucoup plus grande. Et Susanna, à la jumelle, y vit entrer et en sortir plusieurs personnes. Certaines avaient l'air de civils désinvoltes. D'autres paraissaient bien plus, disons, sur leur garde. Et elle en aperçut deux ou trois croulant sous des tas de paquets. Elle tendit les jumelles à Eddie en lui demandant si c'était là des enfants de Roderick.
« Je crois, oui. » « Mais je peux pas en être complètement. »«
Peu importe les rôdes, » fit Roland. « Pour l'instant, que penses-tu de ces deux bâtisses, Susanna ?»«
Eh bien, »
fit-elle en procédant avec prudence, elle n'avait en fait pas la moindre idée de ce qu'il attendait d'elle.
« Elles sont toutes deux très bien entretenues, surtout en comparaison de certaines ruines que nous avons eu l'occasion de croiser au cours de notre périple. » Celle qu'ils appellent la maison d'Amélie est particulièrement belle, du style dit de la reine Anne, et
sont-elles en bois, d'après toi, ou est-ce simplement une imitation ? Je m'intéresse particulièrement à celle appelée Damli. »
Susanna dirigea de nouveau les jumelles dans cette direction, puis les donna à Eddie. Il regarda à son tour, puis les fit passer à Jake. Tandis que Jake observait les lieux, un clic, tout à fait audible, roula vers eux sur des kilomètres. Et le projecteur solaire à la Cecil B2000 qui illuminait le Devartois s'éteignit brutalement, les laissant dans une profonde obscurité pourpre qui tournerait bientôt au noir complet. Et le chien du désert se remit à hurler, faisant se dresser les poils sur les bras de Jake. Le son monta, monta, et se tut brusquement sur une ultime syllabe étouffée, comme un dernier cri de surprise. Et Jake sut avec certitude que le chien du désert était mort. Quelque chose avait rampé par derrière, et quand la grosse lampe s'était éteinte,
il y avait toujours de la lumière en bas, constata-t-il. Une double rangée blanche qui devait délimiter les rues de Pleasantville, des cercles jaunes, sans doute des arcs à vapeur de sodium jalonnant les divers chemins de ce que Susanna appelait la fac des briseurs. Et des lampes torches dessinant leurs motifs aléatoires dans le noir.
Non, se dit le jeune garçon, pas des lampes torches, des projecteurs, comme ceux des prisons dans les films.
Rentrons, suggéra-t-il, il n'y a plus rien à voir et je n'aime pas rester là, comme ça, dans le noir.
Roland acquiesça. Ils le suivirent en file indienne, Eddie portant Susanna et Jake fermant la marche. Ôté sur ses talons. Il s'attendait à chaque seconde à entendre un second chien du désert reprendre la complainte de son congénère, mais rien ne se produisit. 4.
Elles sont en bois, fit Jake.
Il était assis en tailleur sous l'une des lanternes à gaz, laissant la lumière blanche et bienvenue lui baigner le visage.
Du bois,
confirma Eddie. Susanna hésita une seconde, sentant bien qu'il s'agissait là d'une question d'importance et se repassant en esprit ce qu'elle avait vu. Puis elle hocha la tête à son tour.
« Du bois, j'en suis quasiment certaine, surtout celle appelée la maison d'Amli. Une bâtisse reine Anne en pierre ou en brique et camouflée pour faire passer ça pour du bois, ça n'a aucun sens. »
« Si ça peut leurrer les éventuels vagabonds qui envisageraient de la brûler, » suggéra Roland, « alors ça a un sens, à l'évidence. »
Susanna y réfléchit. Il disait vrai, bien entendu, mais...
« Je maintiens, du bois. »
Roland opina du chef.
« Moi aussi. »
Il avait trouvé une grande bouteille verte avec une étiquette Perrier. Il l'ouvrit et s'assura que Perrier, c'était bien de l'eau. Il prit 5 gobelets et en versa une rasade dans chacun. Il les déposa devant Jake, Susanna, Eddie et Otey, et en garda un pour lui.
« M'appelles-tu Tondine ? »
demanda-t-il à Eddie.
« Oui, Roland, tu sais qui ? »
« Partageras-tu le kef avec moi en buvant cette eau ? » ?»«
Oui, si tu le souhaites. »
Eddie avait commencé par sourire, mais à présent il était redevenu grave. Cette sensation était de retour. Le cachum, un mot de contrition qu'il ne connaissait pourtant pas encore.
« Bois, Cerf. »
Eddie ne raffolait pas franchement du surnom de Cerf. Néanmoins, il but l'eau. Roland s'agenouilla devant lui et déposa un baiser furtif sur les lèvres d'Eddie.
« Je t'aime, Eddie. » dit-il.
Et dehors, dans ces ruines qu'étaient tonnes foudre, un vent du désert se leva, emportant une poussière sableuse et empoisonnée.
« Eh bien, je t'aime, moi aussi, »
répondit le jeune homme à sa grande surprise.
« Qu'est-ce qui ne va pas ? Et ne me dis pas qu'il n'y a rien du tout, parce que je sens que si... »«
Rien du tout, » fit le pistolero avec un sourire. Mais jamais Jake n'avait entendu autant de tristesse dans sa voix.
Ce qui le terrifia.
C'est seulement le cachum. Tous les cathètes l'ont toujours ressenti. Mais à présent que nous sommes à nouveau réunis, nous partageons l'eau. Nous partageons notre kef. car nous sommes tous de bons camarades. » Il jeta un regard à Susanna. « M'appelles-tu Dean ?»«
Oui, Roland, je t'appelle Dean. »
Elle était très pâle, mais peut-être était-ce dû à la lumière blanche qui tombait des lanternes. « Partageras-tu le kef avec moi en buvant cette eau ?»«
Avec plaisir, »
dit-elle en lui prenant le gobelet en plastique des mains. « Bois, cerf. » Elle but, sans quitter les yeux de Roland de son regard sombre et grave. Elle repensa aux voix qu'elle avait entendues dans son rêve à la prison d'Oxford. « Celui-ci est mort. Celui-là est mort. » Oh, Discordia, et les ombres se firent plus profondes encore. Roland l'embrassa sur les lèvres. « Je t'aime, Susanna. »«
Je t'aime aussi. »
Le pistolero se tourna vers Jake. « M'appelles-tu Dean ?»«
Oui. »
Sa pâleur à lui était en revanche indiscutable. Même ses lèvres étaient blêmes.
« Le cachume, ça signifie la mort, n'est-ce pas ?»
« Pour lequel d'entre nous ?»«
Je ne le sais point, » répondit Roland. « Et l'ombre peut encore se lever, car la roue ne cesse de tourner. N'as-tu pas ressenti le cachume quand Callahan et toi êtes entrés au milieu de tous ces vampires ?»«
Si. »«
Le cachume pour vous deux ?»«
Oui. »«
Et pourtant te voilà. Notre cathète est fort. Il a déjà survécu à maint danger. » Il peut survivre à celui-ci aussi.
Mais je sens...
Oui, acquiesça Roland. Sa voix était douce, mais il avait ce regard affreux, ce regard qui allait au-delà du simple chagrin, ce regard qui disait que tout pouvait arriver, que la tour était au-delà, que la tour sombre était au-delà et que c'était là qu'allait son cœur, son âme, son cas et son kef. Oui, je le sens moi aussi. Nous le sentons tous. C'est pourquoi nous prenons l'eau ensemble pour consolider notre confrérie. Partageras-tu le kef avec moi en buvant cette eau ?
Oui.
Bois, cerf. Ce que fit Jake. Puis avant que Roland ait pu l'embrasser, il se jeta au cou du pistolero et lui chuchota fiévreusement à l'oreille.
Roland, je t'aime.
Je t'aime aussi. Répondit le pistolero en libérant le garçon. Dehors, une nouvelle rafale siffla. Jake attendit qu'une créature quelconque poussât un cri, de triomphe peut-être. Mais rien. Le sourire aux lèvres, Roland se tourna vers le bafou bafouilleux. « Ôté de l'entre-deux-monde, m'appelles-tu Dean ?»«
Dean !»
aboya Ôté. « Partageras-tu le kef avec moi en buvant cette eau ?»«
Kef, oh !»«
Bois, cerf. » Ôté glissa sa truffe dans le gobelet en plastique, opération en soi délicate, et lapa l'eau jusqu'à la dernière goutte. Puis il releva la tête, attendant la suite. Des gouttes de Perrier brillaient dans ses moustaches. « Ôté, je t'aime. » dit Roland en baissant le visage à portée des dents affûtées du bafouilleux. Ôté lui lécha la joue une seule fois, puis fourra de nouveau le nez dans le gobelet, espérant avoir raté une goutte ou deux. Roland tendit les mains. Susanna prit l'une et Jake l'autre. Bientôt ils furent tous reliés. Comme des alcooliques à la fin d'une réunion des AA, pensa Eddie. Nous sommes cathètes. Récita Roland. Nous sommes un en plusieurs. La multiplicité fait unité. Nous avons partagé l'eau et nous avons partagé nos vies et notre quête. Si l'un de nous devait tomber, celui-là ne serait pas perdu car nous ne faisons qu'un et nous ne l'oublierons pas, même dans la mort. Ils se tinrent les mains encore un moment, puis Roland fut le premier à lâcher.
Quel est ton plan ?
Lui demanda Susanna. Elle ne l'appela pas Trésor. Elle ne l'appelait plus jamais ni comme ça ni d'aucun autre surnom affectueux pour autant que Jake l'ait remarqué.
Tu veux bien nous le dire ?
D'un mouvement de la tête, Roland désigna le magnétophone Volensack, toujours posé sur son baril. Peut-être que nous devrions d'abord écouter ça. J'ai les grandes lignes de mon plan, mais ce que Brötigam a à dire pourrait bien nous fournir quelques-uns des détails.
5. La nuit à tonne foudre est l'essence même de l'obscurité. Ni lune, ni étoile. Pourtant, si l'on voulait se tenir sur le seuil de la grotte dans laquelle Roland et son tête viennent de partager le kef, et où ils s'apprêtent à écouter les cassettes que Ted Brötigam leur a laissées, on verrait deux charbons ardents flottant dans ces ténèbres battues par le vent. Si l'on décidait de gravir ce sentier sur le flanc de Stektet vers ces charbons ardents, proposition dangereuse dans une telle pénombre, on finirait par croiser une araignée à sept pattes, présentement vautrée sur le cadavre saigné à blanc d'un coyote mutant. Ce cantois-tête était littéralement un pauvre bâtard, avec ce moignon de cinquième patte au milieu du poitrail et cette masse molle comme de la gelée pendant entre ses pattes arrière comme un pis déformé. Cependant, sa chair nourrit Mordred et son sang, bu à longues gorgées fumantes, est aussi doux qu'un vin sirupeux. À dire vrai, il y a toutes sortes de choses bonnes à manger par ici. Mordred n'a peut-être pas d'amis pour le transporter avec les bottes de 7 lieues de la téléportation, mais il a trouvé le chemin depuis la gare de Tonnefoudre jusqu'au Stektet, tout sauf ardu. Il en a entendu assez pour savoir avec certitude ce que son père mijote. Une attaque surprise des installations en bas. Ils vont être sacrément débordés en nombre, mais la bande de tireurs de Roland lui est farouchement dévouée et ils n'ont peur de rien. Une folie pareille est une arme encore plus redoutable. Il semble que Mordred soit né avec une bonne dose de connaissances intuitives. Il sait, par exemple, que son père rouge, avec les mêmes informations dont dispose aujourd'hui Mordred, aurait envoyé des nouvelles de la présence du pistolero au maître ou au chef de la sécurité du Devartois. Et alors un peu plus tard cette nuit-là, c'est le cas-tête de l'entre-deux-monde qui se serait retrouvé victime d'une embuscade. Ils auraient été tués dans leur sommeil, peut-être bien, laissant ainsi les briseurs poursuivre leur tâche pour le roi. Mordred n'est pas né avec la connaissance de cette tâche. Mais il est doué de logique et à l'ouïe fine. Il comprend désormais ce que manigancent les pistoleros. Ils sont venus briser les briseurs. Mordred pourrait certes arrêter tout ça, mais il n'a pas d'intérêt pour les projets et les ambitions de son père rouge. Il découvre que ce qui l'excite réellement, c'est cette solitude amère d'être à l'extérieur, exclu. De regarder avec la froideur d'un enfant qui observe la vie et la mort et la guerre et la paix à travers la paroi de verre de son vivarium. Laisserait-il ce quidam la tuer pour de bon, son père blanc? Oh, probablement pas. Mordred se réserve ce plaisir personnellement. Et il a ses raisons. Il a déjà ses raisons. Mais quant aux autres, jeune homme, la femme court jambes, le gamin, oui. Si le quidam Prentice prend le dessus, qu'il ne se gêne pas et qu'il en tue un ou tous les trois. Et Mordred de Chêne respectera les règles du jeu. Il ne fera que regarder. Il écoutera. Il entendra les hurlements, sentira la chair brûler et contemplera le sang qui détrempera la terre. Et alors, s'il juge Roland en danger, lui, Mordred, il interviendra. Au nom du roi cramoisi, si ça lui paraît une bonne idée, mais en fait en son nom à lui, et pour ses raisons à lui, qui se résume à cette évidence. Mordred, l'auffin. Et si Roland et son cas-tête remportaient la partie? S'il gagnait et se rapprochait de la tour? Mordred ne pense pas que ça risque vraiment d'arriver, car étrangement, il est aussi membre de ce cas-tête. Il partage leur kef et ressent ce qu'ils ressentent. Il sent la rupture imminente de leur confrérie. Kashum, se dit Mordred tout sourire. « Il n'y a plus qu'un œil au milieu de la tête du chien du désert. L'une des pattes poilues de l'araignée le caresse, puis l'arrache. Mordred le gobe comme un grain de raisin, puis se retourne vers la lueur blanche des lanternes à gaz qui filtrent sous la couverture que Roland a suspendue pour obstruer l'entrée de la grotte. Pourrait-il se rapprocher? Assez près pour les écouter? Mordred se dit qu'il le pourrait, surtout avec ce vent qui masque le bruit de ses mouvements. Excitante perspective. Il descend en crabe en direction des étincelles vagabondes, vers les murmures de la voix montant du magnétophone et vers les pensées de ceux qui l'écoutent. Ses frères, sa mère, sœur, le bafou apprivoisé et bien sûr, les surveillant tous, le grand K-Papa Blanc. Mordred rampe aussi près qu'il l'ose et s'aplatit dans les ténèbres glaciales et venteuses, malheureux et savourant son malheur, rêvant ses rêves d'exclu. À l'intérieur, derrière la couverture, il y a la lumière. Qu'ils en profitent si ça les chante. Que la lumière soit pour l'instant, mais lui, Mordred, finira par l'éteindre. Et dans le noir, il se délectera de plaisir.